Fides coerens intellectu. La foi qui cherche à se comprendre. L'acte de foi n'est pas contraire à l'acte de la raison. Dans toute la tradition chrétienne, au contraire, la raison rend hommage à la foi. Et nous n'avons pas peur de la raison. Notre foi n'a pas peur de la raison. Au contraire, elle en est toujours éclairée, approfondie, renforcée. C'est ce qu'on appelle la théologie. Et c'est dire combien, évidemment, je suis particulièrement sensible, combien j'ai souci que l'ensemble des fidèles du Christ, tout le peuple chrétien, puisse entrer dans l'intelligence de la foi, puisse grandir dans leur intelligence de la foi. Ils s'émerveilleront davantage encore de celui en qui ils croient, lorsqu'ils l'auront contemplé aussi par la lumière de la raison. C'est pourquoi nos institutions, que sont les facultés de théologie, à laquelle est affiliée l'ISL, dans le cadre de l'ICM, voilà, tous ces signes, l'Institut catholique de la Méditerranée, l'Institut universitaire Saint-Luc, lié à la faculté de théologie, ces institutions ont pour rôle de transmettre cette intelligence de la foi au plus grand. Aujourd'hui, est plus que jamais nécessaire, cette intelligence-là. Ça l'a toujours été, bien sûr. Mais c'est plus que jamais nécessaire. Voilà. Toutes sortes d'opinions peuvent avoir lieu, se traduire de différentes manières, en particulier aujourd'hui sur les réseaux sociaux, chacun a son opinion sur tout. Qui dira l'intelligence de la foi? Qui transmettra? C'est important d'avoir des personnes qui soient formées à cette intelligence de la foi et qui puissent, dans les milieux où ils sont, dans les médias auxquels ils sont confrontés ou auxquels ils participent, puissent ainsi transmettre cette intelligence de la foi, cette foi qui cherche à se comprendre et qui contemple ainsi le Seigneur pleinement. Voilà, donc c'était ces quelques mots d'introduction, simplement d'abord pour vous saluer, Michel, et vous accueillir ici, mais aussi pour rappeler combien le rôle de ces institutions d'enseignement est important pour notre Église et dont nous devons travailler à développer, à déployer sans cesse davantage auprès de nouvelles générations, avec de nouveaux moyens. Et c'est vraiment, vraiment très important. Voilà. La foi chrétienne, je me rappelle, c'est un père de l'Église, un ancien qui attaquait une hérésie qui s'appelait les pauvres du Christ. Et cette hérésie étrange considérait qu'il ne fallait pas faire d'études. Et il disait, vous n'êtes pas les pauvres du Christ, vous pensez pauvrement le Christ. Voilà. Il ne faut pas penser pauvrement le Christ. Mais toute notre pensée peut nous permettre de mieux contempler le Seigneur, de faire connaissance avec lui. Voilà. Tous nos grands théologiens, Saint Thomas en premier, Saint Jérôme, sont des contemplatifs, en même temps qu'ils ont mis toute leur intelligence, toute leur énergie, tout leur savoir, toute leur culture au service de la transmission de la foi. Alors, vivons ce moment ensemble ce soir, l'intelligence de la foi, et que cela nous encourage et soutienne le travail de nos institutions, la faculté de théologie, l'ICM, l'ISL, et nous encourage à transmettre cette intelligence de la foi autour de nous, à faire participer le plus grand nombre de fidèles à cette découverte d'une foi qui veut éveiller notre intelligence, l'éclairer, l'illuminer.
En fait, à l'issue du 16e centenaire de l'anniversaire du Concile de Nicée-Constantinople, le pape Pie XI, le 11 décembre 1925, a institué une fête liturgique, celle du Christ roi de l'univers. Le lien entre Jésus, dont dans le symbole de Nicée-Constantinople, nous confessons qu'il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, consubstantiel, eh bien, le lien entre Jésus et sa royauté sur tout l'univers nous a amené cette année où nous célébrons justement le 17e centenaire de ce concile et donc les 100 ans de l'encyclique Quas Primas qui institue la fête du Christ roi à nous arrêter donc sur la figure de Jésus. À la question qu'il pose à ses disciples et pour vous qui suis-je, nous voulons nous interroger donc au long de l'année à travers trois conférences, Comment concevoir cette universalité de Jésus-Christ. En rapport, c'est ce que nous allons voir ce soir, avec la pluralité des religions, avec la création et les questions écologiques plus tard, et dans une troisième conférence, le rapport entre Jésus, la raison et la foi. Je remercie Michel Younès, donc professeur de l'UCLI, Université catholique de Lyon, qui est membre de l'unité de recherche Confluence. Michel Younès est donc doyen du pôle facultaire de théologie de l'UCLI et nous sommes heureux donc de l'accueillir particulièrement ce soir pour la première fois. Il est professeur de théologie dogmatique, spécialiste d'islamologie. Il est le coordinateur général de la plateforme internationale plurielle, plateforme de recherche universitaire sur l'islam. Il est auteur de plusieurs ouvrages et articles, la liste est très longue, mais vous pourrez trouver à la vente, à la sortie des ouvrages, l'ouvrage le plus récent, je pense, Michel, que vous pourrez donc vous procurer. Il étend son champ de recherche pour mieux faire percevoir la nature de la foi chrétienne dans notre monde pluriel. J'ai eu la joie de travailler pendant plusieurs années avec Michel Younès à l'ICM, l'Institut catholique de la Méditerranée, dont je salue la secrétaire générale, Constance Lénart, qui est ici et qui représente aussi Alexis Leproux, le nouveau président du conseil d'administration de l'Institut catholique de la Méditerranée, dont fait partie l'IUSL, l'Institut universitaire Saint-Luc, et je salue aussi son précédent président conseil d'administration, Monsieur Pierre Langeron, bien connu de nous. Et puis, nous avons donc travaillé alors que venait d'être créé, il y a plus de 20 ans, l'Institut catholique de la Méditerranée. Au titre donc de l'IUSL également, puisque l'IUSL, l'Institut universitaire Saint-Luc, est affilié à la faculté de théologie de l'UCLI, d'où le fait de pouvoir préparer des diplômes canoniques ici à Aix, particulièrement la préparation à la licence ou baccalauréat canonique, ouvert à tous, mais plus particulièrement aux séminaristes, ce qui en fait le studium du séminaire Saint-Luc, et aussi par des diplômes comme le DUET, diplôme d'études universitaires en théologie, préparé plutôt en fin de semaine, le vendredi et le samedi. Vous verrez cela notamment sur les programmes que vous pourrez vous procurer aussi à la sortie de cette salle, si ce n'est d'ailleurs déjà fait. Et donc, d'où le fait de pouvoir non seulement préparer ces diplômes, mais nous sommes aussi également, bien forcément, amenés à collaborer à nouveau. Merci Michel d'avoir accepté de nous faire entrer par un porche royal, si j'ose dire, celui de penser l'universalité de Jésus dans un contexte de diversité religieuse, défis et enjeux.
Merci Monseigneur Delard pour cette mise en contexte pour l'intelligence de la foi. Je pense que c'est véritablement l'enjeu de mon intervention ce soir sur un sujet certes complexe, mais qui nous met devant des défis pour la théologie d'aujourd'hui dans cette réalité interreligieuse. Je voudrais remercier également Père Bernard Metz pour son invitation. Alors, je suis doublement honoré de venir ce soir partager ces réflexions avec vous. Comme doyen de la faculté de théologie, ça vient d'être dit, pour les relations qui nous lient, et comme professeur, réfléchissant sur ces questions-là, ouvrant un cycle et une année académique. Pour introduire mon propos, donc vous l'avez perçu, penser l'universalité, donc sans vouloir insister sur ce verbe penser d'abord, penser cette universalité dans un contexte de diversité religieuse. Pour l'introduire, je voudrais commencer par citer un petit passage tiré de l'introduction que le cardinal Aveline en 2004 a faite quand il a présenté Paul Tillich, c'est un penseur protestant qui, en 1963, vous voyez, ça montre aussi que c'est pas aujourd'hui qu'on commence à penser cela, a prononcé une conférence à Tübingen sur la prétention de l'absoluité du christianisme et son rapport aux religions du monde. Donc, l'actuel archevêque de Marseille, le cardinal Aveline, écrivait ceci. Tillich, ce théologien protestant, fait observer combien cette façon chrétienne de vivre la tension entre le particulier et l'universel est originale. Il y a, très profondément, ancré dans la foi chrétienne, une ouverture universelle qui ne profère aucune exclusion, et cette ouverture est restée pendant longtemps la caractéristique du christianisme. Jésus lui-même y invite, Paul et Jean en explicitent le message, et les pères apostoliques en forgent la doctrine, empruntant le terme philosophique, le logos, pour désigner ce principe de l'autorévélation de Dieu, principe par lequel il a créé le monde et en qui le Christ est devenu homme, principe qui maintenant exprime toujours et partout l'universel de la création. Tel est l'universalisme chrétien. Vous voyez, à travers ce petit commentaire de l'archevêque de Marseille, cette citation qui résume à mes yeux, à elle seule, et qui caractérise ce christianisme originaire en reflétant une forme de tension entre le particulier et l'universel. Et tout au long du parcours, on voit à quel point, y compris quand on va penser le logos comme auto-révélation de Dieu, qui dit Dieu en lui-même, devenu homme, comment penser le particulier et l'universel. Plus de 60 ans après, si j'ose dire, c'est cette conférence à laquelle j'ai fait allusion, on voit que le questionnement s'est à la fois intensifié et s'est légèrement déplacé. Il s'est intensifié parce qu'il interroge encore aujourd'hui notre conception de la place du Christ et son universalité. Il s'est légèrement déplacé parce qu'il concentre désormais, ou il se concentre, je dirais, moins sur le christianisme comme phénomène historique, mais davantage sur le Christ. Il se déplace de cette manière. Et puis, surtout dans ce contexte où on a pris conscience de la diversité religieuse qui nous entoure, il est devenu encore plus intense d'un contexte où la diversité est devenue constitutive de notre réalité. Alors, je voudrais reprendre à nouveau frais ce questionnement en le déclinant suivant trois dimensions. D'abord, comment penser l'universalité? Si on veut dire l'universalité de Jésus, d'abord, comment penser cette universalité? Est-ce une universalité numérique qui doit atteindre chacun individuellement? Est-ce une universalité eschatologique qui sera assumée à la fin des temps? Enfin, de quoi l'on parle? Et on voit que la manière de concevoir l'universalité a des conséquences sur la manière de comprendre le Christ et son agir, y compris dans son Église ou à travers son Église. Deuxième déclinaison, comment comprendre ou comment prendre en compte le salut offert universellement en Christ dans un contexte de diversité religieuse? Que devient l'universalité par rapport à ceux qui sont soit dans l'ignorance de l'Évangile, soit, une autre catégorie, ceux qui le rejettent? consciemment ou volontairement, que devient l'universalité par rapport à ceux qui sont dans la résistance à certains aspects de son identité? Vous voyez, c'est pas forcément les mêmes catégories. Et troisième déclinaison, comment penser la médiation universelle du Christ? Est-ce à partir du Christ devenu Jésus, enfin, le Christ Jésus, est-ce à partir du Logos éternel? Est-ce à partir de l'agir de l'Esprit Saint, de l'Esprit du Christ, l'Esprit de Dieu? Là aussi, selon la manière avec laquelle on va mettre l'accent, ça nous permet d'entrer différemment dans le questionnement. Alors, pour chercher à donner quelques pistes, vous voyez, je mesure chaque mot, chercher à donner quelques pistes sur un sujet complexe, je voudrais procéder en trois temps. J'aurai trois étapes dans mon propos. D'abord, je voudrais faire avec vous, ou devant vous, un premier état des lieux. Où est-ce que nous en sommes? On ne va pas commencer à penser toujours à partir de nous-mêmes. Comment, depuis un certain nombre d'années, on a développé une pensée et quelles sont ses modalités? Ensuite, je voudrais vous proposer, deuxième étape, quelques pistes de réflexion sur ces voies qui peuvent se dessiner. Et enfin, je voudrais souligner quelques enjeux et défis pour nous aujourd'hui. Première étape donc, un premier état des lieux de la question. Alors, je ne voudrais pas vous faire toute l'histoire de la pensée, ou plutôt quelques synthèses de cette pensée. Je voudrais mettre devant votre regard trois étapes, trois moments qui ont jalonné un processus ou la pensée chrétienne devant ces grandes questions. Donc, c'est forcément un parcours sélectif que je vous propose, s'il n'y a que trois moments clés. Alors, plusieurs ouvrages en parlent, enfin, font la synthèse. Mais un des documents intéressants à mes yeux pour un état des lieux, c'est celui de la Commission théologique internationale qui, déjà en 1997, a publié un texte intitulé « Le christianisme et les autres religions ». On fait l'état de l'art. Alors, pour synthétiser ce mouvement, je voudrais l'exprimer en trois points. Premier point, et c'est vrai que pendant longtemps, d'ailleurs le document le reconnaît, pendant longtemps, on a pensé l'universalité du Christ, l'universalité du salut, l'universalité de la médiation en Christ, à partir de ce qu'on pourrait appeler sa reconnaissance confessante. Autrement dit, sont sauvés, sont intégrés à ce salut ceux qui le reconnaissent et le confessent explicitement comme unique Seigneur et Sauveur et qui reçoivent le baptême. On a parlé de ce fait d'une forme de médiation exclusive du Christ. Vous voyez, il y a qu'un unique sauveur, mais il faut le reconnaître. Il ne s'agit pas uniquement de savoir qu'il y a un unique sauveur, il faut le reconnaître. Et c'est vrai qu'un certain nombre de textes bibliques ou de références bibliques vont appuyer ce type de lecture. Ça, c'est pas parti de rien non plus. C'est pas une fantaisie de la pensée. Je voudrais juste vous citer un passage pour illustrer à quel point certains épisodes peuvent donner à voir cet aspect-là. Je lis rapidement parce que l'heure commence à tourner. Jean 6, chapitre 6, versets 44 et 56. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés par Dieu. Quiconque s'est mis à l'écoute du Père et à son école vient à moi. En vérité, je vous le dis, celui qui croit à la vie éternelle, je suis le pain de vie. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Vous voyez, on peut être face à ces textes et dire, mais c'est clair, si je peux dire. Et donc, par voie de conséquence, ne pas intégrer l'Église, qui est le réceptacle dans l'histoire et le véhicule de ce salut, ben, signifie que la personne s'exclut elle-même de la vie éternelle. Vous voyez la traduction. Il y a comme une logique qui va s'installer, ceux qui sont dedans et ceux qui sont dehors. Et là, les repères sont clairs. Il y a l'Église comme étant la vraie religion, et puis il y a des déviances. Et ce schéma de pensée va longtemps impacter la manière de considérer même les différentes traditions religieuses. Et il sera progressivement caractérisé par une forme d'exclusivisme. On va le dire a posteriori. Ben, finalement, il y a une forme d'exclusion. Et vous connaissez sans doute, vous avez entendu parler de ce fameux adage de Cyprien de Carthage du 3e siècle. Hors de l'Église, point de salut. Alors, c'est ce fameux adage, enfin, quand on le contextualise, on pourrait le faire. Il va être utilisé plus tard, c'est pas Cyprien qui l'a utilisé dans ce sens, mais plus tard, en effet, il va être utilisé dans ce sens d'exclusion. Puis d'autres passages vont jalonner une compréhension qui dit, ben, finalement, il y a ceux du dedans, ceux du dehors. Mais là, j'arrive à un deuxième moment. Et le premier mot qu'on peut caractériser par une forme de une logique d'exclusion arrive un deuxième temps. D'ailleurs, vous savez que cette logique d'exclusion totale va être y compris condamnée. Je vous cite juste, en 1949, le pape Pie XII condamna un jésuite, Léonard Fenet, pour l'utilisation rigide et très exclusiviste de cet adage. Avec ce deuxième temps, on marque la sortie d'une forme d'exclusion et la proposition d'approche christologique plus ouverte. Ben, j'ai intitulé ce moment-là « Penser une médiation inclusive de l'universalité du salut en Christ ». Et dans l'Église catholique, le moment du Concile Vatican II va être une des expressions de ce tournant. Évidemment, le concile a été préparé par une longue appropriation, y compris des pères de l'Église, parce que en effet, une des notions clés, d'ailleurs qu'on a rencontrées dans la première citation, c'est la place du logos, ce verbe de Dieu, et les germes de ce verbe, les semences du verbe, présent déjà dans la création. Et il est vrai qu'en revisitant les textes, par exemple, de Saint Justin du IIe siècle, on trouve des affirmations de ce type-là qui, bien avant de parler des religions, vont être considérées par rapport ne serait-ce qu'à la philosophie. Donc, il y a un certain texte, je ne vais pas les citer in extenso, qui marque à quel point ben, la notion du logos, elle n'est pas, non seulement elle n'est pas étrangère, mais elle va permettre de penser autrement l'universalité du Christ. Et d'ailleurs, on va relire un certain nombre de passages, même autrement, avec un autre regard, comme quoi les Écritures, on peut toujours les convoquer, dans un sens, voire dans un autre. Quand on lit, par exemple, Matthieu 25, la parabole de la fin des temps, vous voyez, quand il a séparé les boucs et les brebis, là, la présence du Christ dans les plus pauvres, les marginalisés, elle n'est pas forcément explicite, elle est implicite. Vous voyez, ça va donner lieu à d'autres types de lectures, y compris celle de la lettre aux Romains, chez Paul, quand on voit qu'il va, par exemple, Paul va dire, en effet, quand des païens privés de la loi accomplissent naturellement les prescriptions de la loi, ces hommes, sans posséder de loi, se tiennent eux-mêmes lieu de loi. Ils montrent la réalité de cette loi inscrite dans leur cœur, à preuve le témoignage de leur conscience, ainsi que les jugements intérieurs de blâme ou d'éloge qu'ils portent les uns sur les autres. Au jour où Dieu jugera les pensées secrètes des hommes, selon mon évangile, par le Christ Jésus. Donc le Christ n'est pas absent, mais il est présent différemment. Donc c'est cette conception qu'on a appelée par la suite une conception inclusive du salut en Christ, dont il est l'unique médiateur. Vous voyez, donc on retrouve la médiation du Christ, mais autrement, va répondre à cette universalité du salut, parce que Dieu veut le salut de tous, et c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans 1 Timothée 2, si vous lisez les versets 3 à 5, « Voilà ce qui est bon et ce qui plaît à Dieu notre Sauveur, lui qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car Dieu est unique, unique aussi le médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme lui-même qui s'est livré en rançon pour tous. » Et on va avoir, parmi les traductions christologiques, deux que je retiens ici, qui vont permettre à la pensée chrétienne de changer de regard, si je puis dire, de quitter cette logique d'exclusion, de rejet, a priori, parce qu'on ne reconnaît pas. La première conception christologique peut être ainsi définie, on pourrait dire la distinction, mais là attention, c'est une distinction, il ne s'agit pas de séparation, mais la distinction entre le logos universel, le Verbe de Dieu, et le logos incarné en Jésus, va permettre, je dirais, qu'on soit tous sauvés par le logos, mais différemment. Et une certaine christologie, là je fais référence à Karl Rahner, par exemple, un théologien allemand qui va la thématiser, il va aller jusqu'à parler des chrétiens qui s'ignorent. On a parlé des chrétiens anonymes ou du christianisme anonyme. Alors, il ne s'agit pas forcément de récupérer les autres, mais de considérer que, quelque part, d'une façon invisible, le Christ est présent, le Logos est présent en eux. Et donc, du coup, il continue à agir universellement, mais différemment. Il y a un autre développement qui a pris forme aussi, à travers cette fois-ci la distinction, mais attention, il ne s'agit pas de séparation à ce niveau-là, mais distinction entre ce qu'on appelait, en référence à Saint Irénée, les deux mains de Dieu. Vous savez, Irénée a cette image, les deux mains de Dieu, Irénée de Lyon, du deuxième siècle, et donc du coup, qui va servir comme modèle pour parler de l'économie du Verbe et de l'économie de l'Esprit, qui vont dire cette universalité, mais on va dire de façon médiatisée ou avec des principes qui sont liés au Verbe, mais médiatisés par l'Esprit. Vous voyez, ça va donner lieu à ce type de développement. Je pourrais continuer dans ce sens, mais ce qu'on peut retenir de cette approche inclusive, c'est la volonté de maintenir l'unique médiation du Christ Sauveur, donc c'est ça le principal élément, mais en même temps, on est sauvé différemment par lui. Donc on peut pas être sauvé autrement que par le Christ, ça c'est la colonne vertébrale de cette pensée chrétienne, il est la plénitude du Logos divin et qui peut agir d'une façon directe ou indirecte et même à travers la conscience des fidèles d'autres traditions religieuses. Et cette approche va permettre à l'agir de l'esprit de faire germer, de faire grandir les semences du Verbe déjà présent dans les traditions religieuses. Et dans un passage assez célèbre de Jean-Paul II, dans Redemptoris Missio, si vous lisez le paragraphe 28, il dit « L'Esprit se manifeste d'une manière particulière dans l'Église et dans ses membres. Cependant, sa présence et son action sont universelles, sans limite d'espace et de temps. La présence et l'activité de l'Esprit ne concernent pas seulement les individus, mais la société et l'histoire, les peuples, les cultures les religions. Donc l'esprit peut agir, y compris à travers les religions des autres. Donc premier moment, je dirais une forme de binarité, soit dedans, soit dehors. Un deuxième moment, une manière participative, mais qui garde comme colonne vertébrale le salut universel apporté par le Christ, mais diversement perçu. J'arrive à mon troisième moment, cette troisième étape de ce développement consiste à prendre conscience de ce que je pourrais appeler une ligne rouge à ne pas franchir, à savoir le pluralisme relativiste. Parce que, en fait, face à certaines tendances qui, elles, vont chercher à, cette fois-ci, séparer, on a vu apparaître des conceptions suivant lesquelles, ben, au final, ce n'est plus les religions ou bien l'universel qu'on a à penser à partir du Christ ou de son Église, mais on va le penser à partir d'une réalité ultime, et le Christ n'est qu'une manifestation. C'est vrai que cette manière de penser, qui va conduire à une forme d'autonomie des sources du salut, donc vous voyez que dans ce cadre-là, on ne pense plus à l'universalité du Christ, ça met entre parenthèses l'universalité du Christ, ce type d'approche qu'on va appeler le relativisme, le pluralisme relativiste, va à plusieurs reprises être condamné dans un certain nombre de documents officiels de l'Église, notamment en l'an 2000, un fameux texte de Ratzinger, Joseph Ratzinger, avant de devenir pape, appelé Dominus Iesus, va considérer que à travers cette façon de penser les différentes sources, on sépare Dieu du Christ, on sépare le Verbe de l'Esprit, et finalement, on sépare Jésus du Verbe. L'universel n'est plus lié au particulier. On n'est plus dans la tension. Vous voyez, à travers la première référence de Tillich, j'ai souligné la tension entre l'universel et le particulier. C'est ce qui anime toute la pensée chrétienne. Donc là, on est plutôt dans une séparation, et Dominus Iesus a été une mise en garde contre ceux qui séparent et pensent les choses indépendamment les unes des autres. Alors, à partir de là, comment penser l'offre ou le Christ dans son universalité et les différentes modalités d'appropriation? Pour le faire, donc j'arrive à ma deuxième grande étape. Vous voyez, c'est après cet état des lieux global, on dit, bon, les gens ont pensé avec nous. Qu'est-ce que ça nous donne à penser aujourd'hui? Pour introduire cette deuxième étape, je vous rappelle ce qui paraît pour un théologien chrétien, si je peux dire, trois impératifs. Vous savez, Kant nous a aidé à penser les impératifs catégoriques. Toute pensée chrétienne, je devrais dire toute pensée théologique catholique dans ce contexte-là, si on se réfère au magistère, ne peut pas ne pas prendre en compte trois impératifs. Et c'est dans cela qu'on doit réfléchir. Vous savez, l'intelligence de la foi ne peut pas réfléchir en dehors d'un cadre. C'est quoi ce cadre pour nous ce soir que je tire? Quels sont ces trois impératifs? Le premier, ce qu'on a tiré de la lettre de Paul à Timothée, Dieu veut le salut de tous et il n'exclut a priori personne. Vous voyez, il n'y a pas d'exclusion a priori. Ça serait contre l'esprit évangélique. Deuxième impératif, c'est l'universalité de la médiation christique. Si on enlève le Christ, j'ai parlé de la ligne rouge, l'universalité de la médiation christique qui signifie qu'il n'y a pas de source autonome de salut parallèle. Et puis troisième impératif, c'est le fait que l'Esprit agit en lien avec le Fils, donc c'est pas d'une façon séparée. Alors, à travers des formes, à travers des médiations qu'on a appelées à un moment donné qui participent. Alors, le tout, c'est de conjuguer les trois. Comment tenir ensemble les trois? L'universalité du salut voulu par Dieu, l'universalité de la médiation christique et, je pourrais dire, l'universalité de l'agir de l'esprit. Comment tenir les trois? Alors, pour faire une proposition de maintenir ensemble les trois, dans ce deuxième moment, je vous propose deux pistes. La première piste serait une façon de prendre du recul, même de la distance, pour penser autrement le lien entre unicité et diversité. Alors, très souvent, on les pense de façon opposée. Soit on est dans l'un, donc il faut penser à l'un, il est partout, soit du coup, on est dans la reconnaissance de la diversité, qui devient le multiple. Rappelez-vous de cette tension. Pensez l'un et le divers en même temps. Or, la particularité, et pour reprendre une expression de ma citation première, la caractéristique de la pensée chrétienne, c'est cette volonté de penser en même temps l'un, donc l'unicité et la diversité, il ne s'exclut pas. Et ça peut vous paraître aujourd'hui dans le contexte, pourquoi pas, c'est évident. Mais en fait, ça ne l'est pas du tout. Parce que même dans des systèmes philosophiques, pour ceux qui travaillent la philosophie, vous prenez le système plotinien de Plotin, donc qui a donné forme à une forme de une pensée néo-platonicienne. Là, on est dans le jargon, mais il faut retenir l'idée. Plotin, par exemple, considérait qu'on peut pas être dans l'un et le multiple en même temps. Soit on est dans l'un, dans le régime de l'unicité, soit on est dans le multiple. Et le multiple, c'est la dégradation de l'un. Ben, vous savez qu'il y a des traditions religieuses jusqu'à aujourd'hui qui pensent dans ce modèle-là. Et donc, du coup, qui vont poser l'unicité un peu partout, qui devient, vous le voyez, une forme d'uniformité. L'unicité. Il y a un seul Dieu, il y a un seul livre, il y a un seul... Vous voyez, ça devient le régime de l'un. Vous voyez? Et pour d'autres... Ce que je considère comme étant dans le pluralisme, pense dans le régime uniquement du pluriel. On n'a pas l'un, on n'a pas la vérité. Vous voyez, c'est la dérive, c'est qu'on n'a plus la prétention à une quelconque vérité. On est dans le pluriel. Donc, penser l'un et le multiple, c'est une caractéristique chrétienne fondamentale. Si vous n'êtes pas persuadé, regardez la constitution de la Bible. C'est une Bible, mais elle est composée de deux testaments. Vous voyez, l'un n'exclut pas le divers. Regardez, relisez le récit de Pentecôte, et ainsi de suite. Vous voyez toute l'anthropologie chrétienne. Et relisez un certain nombre de, je dirais, de paraboles, où on voit à quel point l'un n'exclut pas le multiple. Mais pour revenir à notre sujet, et on voit à quel point Vatican II nous va inciter à penser théologiquement par rapport à l'universalité du salut en Christ, l'un et le multiple. Comment? Pour le faire, je voudrais vous citer deux passages ou rafraîchir votre mémoire par rapport à deux passages. Le premier passage, je le tire de Nostra Aetate, vous avez cette déclaration dans le rapport entre l'Église catholique et les religions non chrétiennes. Au paragraphe 2, il est dit, je le cite, l'Église catholique ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans les traditions religieuses, mais même si cela, diffère de ce qu'elle-même professe, c'est pas parce qu'on cherche l'un, mais apporte une lumière de la vérité qui illumine tout homme. Donc on reconnaît quand il y a des germes du Verbe, un rayon de vérité présent, même si ça nous peut paraître différent. Tout en annonçant, et le passage étonnamment finit de cette façon, tout en annonçant ou incitant à annoncer l'annonce du Christ comme étant la plénitude de ce que Dieu apporte à l'humanité. Alors, là aussi, on dit, bon, on est encore en train de tourner autour, comment ça se tient? Le deuxième paragraphe constitue à mes yeux la clé de l'ensemble. Et cette fois-ci, je le tire de Gaudium et Spes, cette autre constitution qui parle du rapport entre l'Église et le monde. Si vous lisez la partie 2, enfin, il y a un paragraphe 22 dans un passage numéro 5, il est dit, donc on parle là du Christ. En Christ, en parlant de lui, nouveau, enfin, l'homme nouveau, et le mystère de l'homme s'éclaire. Donc, on revient, la place du Christ, la médiation du Christ, c'est pas marginal. Et il s'éclaire par le mystère du Verbe incarné. Vous voyez, donc on peut pas mettre du côté le deuxième impératif que j'ai évoqué dans mes trois impératifs. Et dans ce sens-là, donc avant d'arriver au paragraphe 5, le paragraphe 4 va évoquer comment le chrétien reçoit les prémices de l'Esprit qui le rendent capable d'accomplir la loi nouvelle de l'amour. Et comment le chrétien peut recevoir cet esprit-là, enfin, ce deuxième, troisième impératif, qui lui permet d'accomplir la loi nouvelle de l'amour. Et il va dire, il l'accomplit parce qu'il est associé au mystère pascal. C'est le mystère pascal qui est la clé de voûte, si je puis dire. Et c'est là qu'intervient le paragraphe 5 que je convoque ici. Il continue en ces termes. Tenez-vous bien. Et cela ne vaut pas seulement pour ceux qui croient en Christ, mais bien pour tous les hommes de bonne volonté dans le cœur desquels invisiblement agit la grâce. Voyez, c'est pas uniquement pour les chrétiens, mais pour tous les hommes de bonne volonté dans le cœur desquels invisiblement agit la grâce. En effet, le texte poursuit, puisque le Christ est mort pour tous et que la vocation dernière de l'homme est réellement unique, à savoir divine, nous devons tenir que l'Esprit Saint offre à tous, d'une façon que Dieu connaît, la possibilité d'être associé au mystère pascal. C'est le salut est unique, il tient au mystère pascal. L'association à ce mystère, elle peut prendre des formes variées. Et elle peut prendre non seulement des formes variées, deuxième piste de réflexion, elle peut prendre des formes appropriées, des modalités d'appropriation différentes. Alors, c'est quoi ces formes d'appropriation différentes? Alors, je vous avoue une chose, j'ai écrit un livre pour essayer de l'expliquer, pour une théologie chrétienne des religions. Comment? C'est à partir de l'appropriation différente. Alors, pour le simplifier, sinon vous pouvez lire in extenso, mais pour l'illustrer, je voudrais convoquer un autre passage de Matthieu 25. Vous savez, Matthieu 25 est très présent ce soir. Mais il y a trois paraboles dans Matthieu 25. Il y a une première parabole qui parle de la fin des temps, que j'ai évoquée en premier. Et cette parabole, appelée très souvent la parabole des talents. Vous l'avez à l'esprit, cette parabole des talents? Quand le maître appelle trois serviteurs, à l'un il donne cinq, à l'autre deux, à l'autre un talent. Et elle est très intéressante, cette parabole, relisez-la. Parce qu'elle permet de voir comment, le don est universel. Il n'est pas réservé. Le maître n'a pas dit à certains, vous n'avez rien à vous, vous êtes de côté. Il a donné juste à l'un pour distribuer aux autres. Mais il a été donné différemment. On n'est pas dans la reproduction du même. Vous savez, la logique de l'un. On reproduit le même, sinon on n'est pas rassuré. Il a donné différemment, mais selon un critère, selon un principe, il y a proportionnellement ou en lien avec la capacité de chacun de faire fructifier ses dons. Et c'était ça le critère ultime du jugement du maître. Qu'as-tu fait de tes dons? Vous voyez, Alain, il a donné cinq, il est revenu avec cinq autres. Celui qui a eu fait deux, revenu avec deux autres. Et regardez dans le texte, c'est la même phrase du maître après. C'est bien, serviteur bon et fidèle, lui dit le maître, en peu de choses tu as été fidèle, sur beaucoup je t'établirai, entre dans la joie de ton Seigneur. Et ce verset va être répété deux fois. Verset 21, verset 23, pour celui qui a eu 5, pour celui qui a eu 2. Et on voit à quel point, ici, ce n'est pas uniquement la quantité qui compte pour elle-même, c'est pas une valeur absolue, la quantité, mais c'est la manière de se l'approprier. Ce qui convoque une forme de responsabilité par rapport à la manière de faire fructifier les dons reçus. Donc, on n'est pas dans une logique d'exclusion, on n'est pas dans une logique de tout va, parce que le troisième serviteur, qui n'a pas fait selon ses talents, hein, il avait un, il a enterré, il l'a rendu comme tel, quelque part, selon une certaine logique, on pourrait dire, mais le maître, il est atroce, il l'a rendu comme tel. Mais en fait, il a été en disproportion, en deçà de ce dont il était capable. Et donc, on voit à quel point cette manière de voir les dons permet, à travers les appropriations, où on peut soulever la question de la liberté dans l'appropriation. Le don est offert à la liberté de chacun pour le faire grandir selon une logique divine, selon une progressivité, une pédagogie divine. Donc, c'est pas la logique du tout ou rien qui apparaît ici. Donc, vous voyez, première étape, on a pensé. Il y a des outils pour penser théologiquement, mais sans sortir d'un certain cadre qui nous fait perdre la place du Christ, son universalité. Il y a des pistes, on a des ressources à travers la raison, à travers les écrits. J'arrive à ma troisième grande étape. Quels sont les enjeux et les défis d'aujourd'hui? Et c'est vrai que dans le contexte actuel, ces questions ressortent. Et je dirais avec encore plus de force. Et on peut relever un certain nombre de défis qui nous incombent dans un contexte où la diversité n'est plus une option. La diversité religieuse ou religieuse n'est plus une option. Quels sont les, comment je les ressaisis, ces enjeux-là? Quels sont les défis pour rendre audible cette universalité en Christ? Pour vous le proposer, je convoque ou bien je voudrais établir trois pistes, trois enjeux, trois lieux possibles. Le premier que j'appellerai l'importance du témoignage chrétien ou la capacité de rendre présent dans notre monde ce salut universel. De quoi je parle? Alors, c'est vrai qu'on pourrait croire que la notion d'association au mystère pascal ou la proportionnalité, ça pourrait laisser entendre une possible juxtaposition. Chacun a reçu pour lui, ou on est associé mystérieusement, mais au fond, ça ne nous intéresse pas. Ça pourrait même laisser entendre une forme de démission dans la manière d'annoncer ou de porter ce salut. Mais si l'on comprend l'universalité du salut en Christ comme étant pas numérique, donc si on se distancie par rapport à une compréhension numérique, il faut que chacun numériquement soit chrétien, ou une autre forme, je dirais eschatologique, bon, on verra à la fin des temps, hein. Pour l'instant, chacun vit sa vie et puis on verra à la fin des temps. En se décalquant par rapport à ces deux, on pourrait orienter le regard sur une autre façon de voir que j'appellerais une certaine universalité sacramentelle qui me paraît plus appropriée pour penser cette tension-là. Alors, je parle devant un théologien des sacrements, donc c'est sous son contrôle, mais qui me paraît plus correspondre à une à la foi de l'Église qui célèbre l'unique sacrement. Donc il y a une réalité donnée là dans notre histoire, dans notre temps, quand il y a la célébration de l'unique sacrifice pour le salut du monde. Mais vous voyez, vous connaissez la structure du sacrement. Le sacrement appelle à prendre ses responsabilités, ou la structure du sacrement, parce que c'est toujours une réalité visible, un signe visible, par rapport à une réalité invisible. Et c'est, le sacrement, c'est toujours un signe et une réalité. C'est pas l'un sans l'autre. Donc, on pourrait dire qu'à travers cela, à travers cette logique du témoignage, ou bien une théologie du témoignage, comment il ne s'agit pas de démissionner, mais de penser autrement à la présence chrétienne, rendre audible, rendre visible, rendre intelligible cette réalité de la foi. Donc, être témoin et vivre de l'expérience salvifique, c'est pas à mettre de côté. C'est au contraire encore plus d'actualité pour être le signe visible de la mission évangélisatrice qui n'exclut pas l'annonce, mais qui exige une forme de traduction. Même en prenant en compte la pensée de l'autre. Et la transmission exige la réception. Donc, s'il n'y a pas une prise en compte de cette réalité-là, ben, on peut passer à côté. Et je me suis particulièrement moi-même intéressé à comment transmettre dans un contexte de diversité et parfois un certain nombre de résistances que nos contemporains peuvent avoir. Deuxième enjeu, donc en plus de l'enjeu d'une théologie du témoignage, je dirais c'est l'enjeu de la rencontre ou la capacité d'entrer en dialogue avec un autre que soi. Et c'est vrai que le pape François appelait souvent l'Église à être une Église en sortie. Vous avez sans doute lu ou entendu ces appels. Église en sortie. Or, être une Église en sortie, c'est aller à la rencontre. Alors, on peut pas être en sortie dans l'entre-soi. Et Gaudium et Spes, cette fameuse constitution, a posé les bases, même des bases intéressantes de cette rencontre-là. Mais pour vous montrer à quel point la question même de la rencontre et du dialogue sont au cœur de ce défi-là, je voudrais vous rappeler comment le pape Paul VI a perçu l'ADN de l'Église, si je peux dire, à travers Ecclesiam Suam. L'ADN de l'Église, c'est qu'elle soit en conversation avec le monde. Si on enlève la partie dialogue, la rencontre, la conversation, ben on perd tout. Et Paul VI l'avait inséré, inclus, l'avait compris, enraciné dans le Dieu Trinité. C'est la conversation, c'est pas une option pour l'Église, parce que Dieu lui-même est parole. Quand il s'est adressé au monde, il s'est adressé par sa parole, et la mission de l'Église, c'est d'être en conversation avec le monde. Et c'est vrai que depuis Vatican II, on voit apparaître plusieurs manières de concevoir cette question du dialogue. Donc, je voudrais pas l'écarter rapidement, mais attirer votre attention sur les pièges des mots. Qu'est-ce qu'on entend derrière le terme dialogue? Si par dialogue, il s'agit de se mettre d'accord, là, on se met pas d'accord sur les éléments de foi. Donc, c'est pas ça que j'entends derrière le terme dialogue, qui est devenu un peu un terme fourre-tout. Mais le dialogue, pour moi, ce n'est ni la recherche de ce qui est similaire, ni la volonté de s'opposer, mais il exige, par cette écoute réciproque, une manière de nommer, y compris parfois les difficultés, les incompréhensions, les idées reçues. Donc, il peut aider à partir de cela à transformer le regard sur les différences, sur les préjugés. Donc on a besoin du dialogue pour y compris être des témoins du Christ et de l'universalité de son salut. Et puis je pousserai encore un peu plus loin, et ça sera ma troisième piste, c'est comment le dialogue, la rencontre, la prise en compte de la différence peut conduire à approfondir des éléments parfois oubliés chez soi. Ce n'est ni une volonté de, par surplomb, de dire, c'est soit ça, soit rien, ni une tactique pour conduire l'autre à uniquement se convertir. Enfin, c'est pas ça le dialogue. Il peut aussi amener à éclairer des éléments qu'on a oubliés chez soi et par le fait même à les réveiller, à les vivre différemment et donc du coup à chercher à dépasser les préjugés qu'ils peuvent encore être dans le contexte actuel. Donc vous voyez que dans une logique d'appropriation que j'ai développée, il y a plusieurs phases d'appropriation. Et on finit pas de s'approprier soi-même cette source qu'on a reçue. Donc il s'agit pas uniquement de l'amener pour dire l'universalité uniquement vers l'extérieur, c'est la manière avec laquelle on va continuer à se ressourcer va pouvoir rejaillir sur les autres. Je dirais pour conclure, je voudrais reprendre les trois déclinaisons que j'ai faites dans mon introduction, les trois types de questions, les séries de questions. Je dis, comment penser l'universalité, rappelez-vous? Est-ce une universalité numérique qui atteint chacun individuellement, donc qui pousse à dire, il faut du chiffre? Est-ce une universalité eschatologique qui sera la fin des temps? Ou est-ce une universalité sacramentelle? Et voyez que j'ai fait le choix. Si on veut penser cette tension dans notre histoire entre le particulier et l'universel, on a le choix que de passer par cette théologie des sacrements, cette pensée sacramentelle. Il y a un sens sacramentel de l'universel, y compris pour penser l'universalité du Christ. À la deuxième série de questions, comment prendre en compte le salut offert universellement en Christ dans un contexte de diversité, ou que devient l'universalité par rapport à ceux qui sont dans l'ignorance de l'Évangile, que devient l'universalité par rapport à ceux qui sont dans le rejet, conscient ou volontaire, que devient l'universalité par rapport à ceux qui sont dans la résistance. Vous voyez que j'ai cherché à indiquer une voie qui prend en compte les résistances. Et je pense que plutôt que de vouloir tout de suite mettre des catégories, ceux qui sont dans l'ignorance sont de ce côté, ceux qui sont dans plutôt le rejet sont dans cette catégorie ou voués à la condamnation éternelle, l'enjeu, je dirais théologique, mais l'enjeu de tout chrétien, c'est de prendre à bras-le-corps, je dirais, les résistances de l'autre, qui permettent non seulement de vouloir déconstruire les préjugés, mais de s'approprier même pour soi autrement cette universalité de la foi en Christ Sauveur. Et puis à la troisième série de questions, comment penser la médiation universelle du Christ? Est-ce à partir du Christ homme? Est-ce à partir du Logos éternel, ou de l'agir de l'Esprit? Vous voyez qu'il est important de développer théologiquement une pensée, je dirais, de nature trinitaire, une christologie trinitaire. On ne peut pas penser l'un sans l'autre. Rappelez-vous les trois impératifs. Il est important de pouvoir penser l'un et l'autre. Et pour finir, en respectant le temps qui m'a été donné, je voudrais clore mon propos avec un bref commentaire de la parole de Jésus lui-même, quand il a affirmé qu'il est le chemin, la vérité et la vie. En invitant ses disciples à comprendre, et ses disciples au sens large du terme, à comprendre sa personne et donc du coup son universalité, la vérité qu'il fait apparaître, sans séparer chacun des termes. Parce que très souvent, on pense le Christ comme chemin, on pense le Christ comme vérité ou comme vie, mais comment véritablement prendre en compte le chemin qui, pris tout seul, peut conduire à des voies parallèles, mais c'est pas cela dont il s'agit. Vous voyez, donc il s'agit pas de dire ben c'est un chemin parmi d'autres. La vérité n'est pas plurielle, c'est pas cela, parce que déjà la vie est une. Mais on voit en même temps comment l'idée du chemin invite à une perception ouverte. C'est un chemin, c'est pas un état fini. Et je vous invite à voir comme un le Christ comme un chemin ouvert à tous. Deuxième élément, la question de la vérité. Et si on prend la vérité dans le lien ou dans son rapport au chemin, on voit que la vérité suppose un chemin, un cheminement, un chemin à parcourir qui n'est jamais fini, y compris pour les chrétiens qui vivent et qui sont sur ce chemin, et que ce chemin soit courbé, qui prend une voie courbée ou qui suivent une ligne droite. Et c'est vrai que le chemin peut s'effectuer selon plusieurs routes, plusieurs façons de cheminer, mais qui participent à ce que la vie, dans sa plénitude, la vie qui est offerte, soit toujours en cet esprit une vie en abondance, en surabondance, et dont les chrétiens sont appelés à s'y ressourcer abondamment. Vous voyez, c'est cette manière de faire, finalement, il ne s'agit pas de dire autre chose, mais de le penser de façon à donner à voir une autre manière de voir l'universel, une autre manière de voir l'unicité, une autre manière de considérer la rencontre. Je vous en remercie.